Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est quand même un jour spécial à bien des égards. Spécial aussi avec Paul. Voilà, ça fait un moment qu'on parle de ce jour, hein, Paul. Franchement, je pense qu'on a, fait plusieurs tentatives de planification. Déjà avant les confinements. Vous imaginez? C'est comme si on parlait avant la guerre, hein, ça. Mais non, mais c'est vrai, franchement. Hein. On se souvient du monde d'avant. Eh bien, c'est dans le monde d'avant qu'on avait planifié ce temps ensemble. On n'avait pas prévu les masques et le gel et tout ça. On ne parlait pas de tout ça. Hein. Et bien sûr, ce genre de date se planifie pas mal de mois en avance. Et donc, la date était fixée. Et puis, pof! Voilà un tout petit virus de rien du tout qui vient troubler la terre entière. Moi, je trouve que c'est quand même un beau coup du Seigneur de nous montrer qu'on tient à peu de choses. Hein. Ah oui, l'homme fier de tout ce qu'il accomplit, de toute sa puissance. Hein. Et puis tout à coup, un tout petit machin vient tout perturber. Et donc voilà, et puis on s'est dit, bon, ça ne va pas durer. Alors, on a mis une autre date. Eh bien oui, ça dure. Mais nous voilà quand même. Alors c'est vraiment chouette d'être ensemble ce matin. Donc je m'appelle Eric, je viens de Belgique, alors j'ai un autre accent que vous. On a tous des accents juste un peu différents. Hein. C'est bien d'être là finalement, c'est vraiment pas loin la Belgique, hein. Enfin vous n'êtes pas loin, ça, j'étais surpris ce matin que ça allait si vite pour venir jusqu'ici, depuis la Belgique. Donc on avait pensé à ce temps ensemble, en fait Paul et d'autres m'ont invité à venir vous parler avant la crise du Covid. Parce qu'il y avait déjà une réflexion sur, tiens, est-ce que la manière dont on vit l'Église, par habitude, hein, l'Église c'est l'Église, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à découvrir, quoi. Voilà, je vais résumer ça comme ça. Et puis est venue la crise du Covid. Wow. Et toutes les Églises en ont pris un coup. Ah ouais, hein, on a tous eu de la peine, je pense, hein, pendant cette période. Toutes les communautés, toutes les Églises, surtout dans nos pays occidentaux, ont vraiment souffert pendant cette période, d'une manière ou d'une autre. Hein. On l'a vécu différemment, mais beaucoup d'églises ont souffert. Beaucoup d'églises se retrouvent, après le Covid, dans une situation difficile. Alors, je ne sais pas du tout, je ne connais pas du tout vos églises ici, hein. Donc je suis relativement libre de dire toutes sortes de choses, et je peux toujours prétendre que ça concerne les églises de Belgique. Hein. Comme ça, vous êtes tout à fait à l'aise avec ça. Hein, ne vous sentez pas attaqué ou critiqué, je ne parle que des églises de Belgique, ça va? Donc comme ça vous dites, oh mais c'est là-bas, ouh là là, tout ce qu'ils vivent là-bas, ça va? Donc il n'y a aucun souci. Comme ça vous pouvez vous mettre à l'aise avec tout ça. Mais beaucoup d'églises souffrent. Alors maintenant on peut se retrouver en présentiel, d'ailleurs c'est extraordinaire les nouveaux mots qui sont apparus ces derniers mois, on peut se retrouver en présentiel. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas votre situation, mais je sais que dans beaucoup d'églises, ben, le présentiel d'aujourd'hui ne ressemble pas du tout au présentiel d'avant la crise du Covid. Alors, bien sûr, il y a les masques et toutes ces règles sanitaires, mais en dehors de tout ça, ce n'est plus tout à fait toutes les mêmes personnes qui se retrouvent. Alors, je ne sais pas chez vous, mais je sais qu'il y a beaucoup d'églises qui voient des personnes qui ne viennent plus, par exemple. Hein? On a perdu du monde. Alors, c'est le cas ici? Oui, oui. C'est pas évident, hein? Certaines églises plus, d'autres moins, hein? Des personnes qu'on ne voit plus, ou certaines églises carrément sont en pleine crise, parce qu'avec ce temps d'éloignement, quand on se retrouve, eh bien, les animosités apparaissent, et des divisions, il y a plein de choses qui se passent pour le moment, pas facile. Quelques églises s'en sortent très bien, mais peu. Alors voilà, je pensais, qu'est-ce qui serait un bon verset, un bon texte de la Bible post-Covid, enfin, presque post-Covid. Hein. C'est par la foi, hein, qu'on dit ça. Et j'aimerais vous partager un texte, voilà, un texte du Nouveau Testament. Mais avant, moi, j'ai besoin qu'on s'incline et qu'on prie. Je crois qu'on en a tous besoin. Parce qu'on a besoin que ce soit le Seigneur qui nous parle, pas juste Eric et ses discours. Voilà, Seigneur, ce matin, nous allons ouvrir ta parole, la Bible. D'abord, nous voulons te dire notre reconnaissance parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Tu nous as donné ta parole, la Bible, inspirée jusque dans ses moindres mots. Et puis tu nous as donné ton esprit pour nous accompagner, pour nous éclairer à l'intérieur de notre esprit, pour communiquer avec notre esprit, pour que ta parole prenne vie. puis tu nous as donné la grâce de la communion fraternelle pour que nous puissions nous encourager, nous exhorter, nous édifier les uns les autres. Et c'est en comptant sur cela, sur toutes ces grâces que tu nous donnes, que nous osons venir à toi ce matin pour que tu nous parles. Alors Seigneur, on sait aussi que si notre cœur est fermé, tu auras beau parler, ce sera comme ces graines qui tombent sur le chemin dur là. Alors ce matin, que tu nous donnes un cœur comme une bonne terre qui va accueillir, entendre, accueillir, recevoir et laisser ta parole transformer nos vies pour y porter du fruit pour ta gloire. Alors utilise humblement ton serviteur, Seigneur. Tu sais à quel point je sais que je ne mérite pas d'être là. Mais je veux m'appuyer sur ta grâce ce matin. Et tout cela à cause de Jésus. Amen. Alors, il y a un verset, je pense qu'avant, c'était surtout un excellent verset pour encourager, par exemple, aux réunions de prière. Hein, vous savez, ce genre de réunion où il y a moins de gens qui viennent un peu. Hein, alors, il y a un super verset. On va le prendre dans la Bible. Hein, c'est un verset bien connu que les pasteurs aiment rappeler hein, de temps en temps dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. Hein, on ne sait pas qui a écrit aux Hébreux. Mais en tout cas, il avait un souci ou une préoccupation là qui est souvent celle des responsables d'église quand il dit, Hébreux 10, verset 25, je ne sais pas dans quelle version vous avez l'habitude de lire, la semeur, la seconde, je vais le lire dans plusieurs versions, parce qu'on est assez à l'aise. Hein. La version semeur dit, ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Alors après le Covid, c'est un verset qui prend encore plus d'ampleur, je trouvais. Parce que justement, ben on a pris l'habitude de ne pas avoir de réunion pendant le Covid. Alors, je ne sais pas du tout, je sais pas exactement les règles en France, comment ça s'est passé, mais je me doute que pendant tout un temps, on n'a pas pu se retrouver, n'est-ce pas? En vrai, je veux dire, en chair et en os. Donc, on a eu une certaine habitude, par la force des choses, de délaisser nos réunions. Enfin, de ne pas avoir de rassemblement comme celui-ci ce matin. Et c'est pour ça que c'est un privilège de pouvoir être là. Et les confinements à répétition ont eu un impact sur les rassemblements, sur les réunions. Hein. Alors, certains ont choisi de se rassembler en ligne. Hein. On a tous découvert Zoom. C'est un mot qu'on ne connaissait pas avant. Maintenant, tout le monde connaît Zoom ou Meet, ou enfin, tous ces rassemblements, ces plateformes de réunions en ligne, ou YouTube, il y a des tas de gens. La progression de la capacité, la connaissance informatique a explosé hein, pendant le confinement. Hein. Les gens ont appris à utiliser les plateformes en ligne, ont appris où était YouTube et comment lancer une vidéo, hein, comment aller voir. Parce que voilà, on a dû trouver des moyens. Mais quand même, cet aspect de se réunir en a quand même souffert pendant cette période de Covid. Et alors, voilà, j'entends des chiffres un peu à gauche, à droite, et pas mal d'églises ont finalement perdu même jusqu'à 30, voire 50% de leurs fidèles en fréquentation, quoi. J'entends beaucoup d'églises qui continuent à être en ligne sur Internet parce que ben, c'est là que les gens sont, ils ont pris l'habitude. Hein. Franchement, on peut être en pyjama, avec son café. Hein. Ben ouais. Et puis si la prédication est trop longue, on accélère un peu. Hein. Vous avez déjà vu, sur YouTube, vous savez qu'on peut regarder x1,5 ou x1,25 la vitesse, on peut accélérer la prédication. Ceux qui ne le savaient pas, désolé, mais voilà, on peut faire ça. On peut avoir une prédication plus courte, on accélère, il parle juste un peu plus haut, mais ça va plus vite. Alors, s'il y a un chant qu'on aime bien, on le passe deux fois. S'il y a un chant qu'on n'aime pas, on va au suivant. Pardon, c'est dit ? Oui, c'est à la commande, littéralement, hein, la télécommande. C'est à la commande. Et ça, c'est un peu comme une église de consommation, en quelque sorte. Mais on va revenir là-dessus. Ça donne d'autres habitudes, un certain confort. Hein. Évidemment, si c'est ça l'Église, si l'Église c'est une espèce de performance auquel on assiste, en ligne par exemple, à mon avis, il n'y a pas grand avenir. Hein. D'abord parce qu'il y a toujours bien quelqu'un qui fera mieux que nous. Hein. Le monde autour de nous offre bien meilleure qualité au niveau show, hein, performance. Quoi. Et puis, c'est pas comme ça, c'est pas l'Église. Alors, c'est assez intéressant parce qu'il semble que cette crise du Covid a fait vraiment du mal à beaucoup de communautés. Or, quand Dieu a conçu l'idée de l'Église, il a conçu l'Église comme une entité très flexible, une entité adaptable. C'est un concept adaptable, extrêmement résiliente. Alors, je ne sais pas, c'est un terme fort à la mode, hein, la résilience. C'est-à-dire la capacité de passer à travers les troubles et d'en sortir même grandi. Alors, c'est intéressant d'avoir le frère qui parlait de la paix, hein, dans l'Église de Judée, de Galilée, de Samarie. Et elle se développait bien. Mais si on regarde l'histoire de l'Église, vous savez très bien, enfin certainement comme moi, quand est-ce que l'Église s'est développée le plus ? Une idée ? En persécution. Donc dans une situation difficile, avec de l'opposition, c'est là que l'Église s'est... Et encore aujourd'hui dans le monde, hein ? Parce que c'est dans le caractère de l'Église d'être résilient. À la limite, c'est les temps de paix, dans le sens, vous savez, tout va bien, hein, où on s'installe dans nos habitudes, où l'Église survit plutôt que ne s'épanouit pleinement. Et c'est paradoxal, alors c'est intéressant de voir ce que le Covid va faire à plus long terme dans l'Église. Mais je crains que, vous savez, on parle de ceux qui sont atteints du Covid et qui en sortent difficilement, on parle de Covid long. Vous avez entendu cette expression, le Covid long. C'est-à-dire, on est guéri, mais on a des séquelles. Hein? On reste faible. Et je crains que pour beaucoup d'églises, on souffre d'un Covid long. Que la crise va passer, mais qu'on va rester faible pour longtemps. Je pense aussi que ce temps de Covid est une vraie opportunité. D'abord, si Dieu l'a permis, ce n'est pas sans raison. Je pense qu'il y a quelque chose qui nous pousse à nous remettre un peu en question. Alors, je sais que c'est le cas pour plein de gens, pas seulement les chrétiens. Hein. Ces temps de confinement, peut-être pour vous aussi, hein, quand on se retrouve à la maison sans pouvoir sortir, ça remet plein de choses en question. Hein, il y a plein de choses que l'on faisait, qu'on pensait tellement importantes, et finalement, on se dit, bah, c'est peut-être pas si important. Hein. On a remis plein de choses en question dans nos vies, mais c'est aussi une occasion pour l'Église de Jésus-Christ de remettre un peu en question, comment on vit l'Église ? Est-ce que ça fait sens ? Ou est-ce que finalement, on est tellement dans notre routine d'Église ? Donc ce temps d'arrêt, c'est un bon temps pour réfléchir. Alors, revenons à notre verset. Alors j'espère que vous avez une Bible ouverte, ou un téléphone, ou une tablette, dans ce chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. Donc au verset 25. « Ne délaissons pas nos réunions, comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. » Version Summer. Le second 21 dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. » Je crois que ce verset parle du cœur de la vie de l'Église. Le cœur de la vie de l'Église, ah oui. Mais d'abord, église tout court, hein. On sait bien que le mot église, ecclesia, hein, ça veut dire ben, se rassembler, justement, c'est l'assemblée. Ecclesia, pour ceux qui ne le savaient pas, ça, c'est pas un grand secret. Hein. Ecclesia, le mot grec, ben, ça décrit le rassemblement. Quand on dit église, on dit rassemblement ou assemblée. Hein. Donc forcément, au cœur de l'église, il y a le fait d'être ensemble. Alors, ben, c'est intéressant, hein, parce que comment est-ce qu'on lit ce texte, hein, je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête si... Quand vous lisez « N'abandonnons pas nos réunions » ou « Ne négligeons pas nos réunions », alors, qu'est-ce qui se passe dans notre tête ? Quelle est l'image qu'on voit ? Alors, je vais poser une question ouverte. Il y en a plein qui ont gardé leur masque, vous pouvez répondre. Alors, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans notre tête quand on lit « N'abandonnons pas nos réunions » ? Comment est-ce qu'on pourrait dire ça autrement ? Soyons fidèles à quoi ? Mais à quoi ? Oui, c'est ça. Mais quand on dit « soyons fidèles à notre assemblée », on pense à quoi pratiquement ? À la foi ? Quand on parle des réunions, on pense à la foi. Ah, on pense à l'Église. On pense, mais à quoi dans l'Église ? Pas juste la foi, la théorie de la foi, pas la théologie. Très concrètement, on pense à être présent à la réunion, non ? En gros, on pense surtout aller au culte. Ne ratez pas la réunion de prière. N'oubliez pas l'étude biblique. Ou, enfin, je ne sais pas, moi. On lit ce texte à travers les lunettes de notre vie d'église. Donc, quand on lit « N'abandonnons pas nos réunions », ben, on pense à nos réunions. Et nos réunions, ben, c'est, ben, vous avez chacune de vos églises, on fera sûrement les annonces encore tout à l'heure, donc dimanche prochain, 10h ou 10h30, et puis on va annoncer les activités de l'église. Et on a tendance à lire ce texte à travers notre pratique d'église, c'est-à-dire notre programme d'église. Et il n'y a rien de mal avec un programme d'église. Hein? Mais ce n'est pas vraiment ce que l'auteur dit. L'auteur, en fait, quand Sommer traduit « nos réunions », ben, ce n'est pas tout à fait correct. Second traduit « notre assemblée », c'est un peu plus correct. Ce que l'auteur veut dire, c'est « ne mettez... » En fait, il y a un petit mot grec. Hein. Je vais pas faire du baratage, je suis pas un spécialiste du grec. Hein. Je lis des livres qui parlent du grec. Hein, et donc, c'est deux mots ensemble. Et vous allez voir, quand je vais dire les mots, vous allez tout de suite... reconnaître, épi-synagogué, hein, comme synagogue. En fait, vous savez, la synagogue, c'est le lieu de rassemblement. En fait, ça veut dire être ensemble, synagogué. C'est être ensemble. Et épi, bon, c'est une petite particule qui se met avant, qui veut dire ben, au-dessus de, ou bien au-delà de la vie normale, quoi. Un temps particulier, un temps mis à part pour être ensemble. Ne mettons pas de côté le temps, ces occasions, les retrouvailles, voilà. N'abandonnons pas nos retrouvailles. Alors déjà, si je dis retrouvailles au lieu de réunion, je pense déjà moins programme, culte, études bibliques. Bien sûr, quand on est au culte, on se retrouve. Mais ce que l'auteur pointe ici, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est beaucoup plus organique, naturel. Il dit, ne négligeons pas de nous retrouver. Ne négligeons pas de nous retrouver. Et même quand il dit, ne négligeons pas, ça peut même être, c'est un drôle de verbe, je vais être un petit peu, pas vulgaire, mais un petit peu cru, ne vous en foutez pas de vos retrouvailles. C'est un peu ça qu'il dit. Ne mettez pas ça comme quelque chose, bof. Ça veut dire que on peut aller au culte tous les dimanches et en fait, s'en foutre, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, des retrouvailles. On peut entrer, s'asseoir, être même à sa place, la place attitrée, hein, écouter le prédicateur, écouter le groupe qui chante, nanana, et sortir. Et on a complètement négligé les retrouvailles. Voyez-vous, dans notre habitude de vivre l'Église, on a tellement, d'une certaine manière, encore une fois je parle de la Belgique, mis l'Église en boîte, hein, dans un programme avec des habitudes et des réunions et des horaires, qu'on peut passer à côté en fait du cœur de ce qu'est l'Église. L'Église, c'est les disciples de Jésus qui se retrouvent. Alors pour certains, le même rassemblement sera un vrai temps de retrouvailles, mais pour d'autres, ils vont passer complètement à côté. Nos retrouvailles. En fait, c'est un mot, les retrouvailles, qui n'apparaît que deux fois dans le Nouveau Testament. L'autre fois, c'est Paul qui l'utilise dans sa lettre aux Thessaloniciens, c'est pas la peine d'aller, je vous cite. « En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et nos retrouvailles auprès de lui. » Donc c'est dans 2 Thessaloniciens 2, le premier verset, où Paul parle du moment où Jésus va revenir. Et vous savez, quand Jésus revient, hein, tous les disciples, tous les chrétiens du monde entier vont se rassembler auprès de lui. On va tous se retrouver avec Jésus. Voilà, ça c'est le même mot. C'est les deux seules fois où le mot est utilisé. Donc vous voyez, c'est... Littéralement, on va le retrouver dans les airs, donc on sera au-dessus, littéralement, là. Hein. Mais c'est l'idée de se retrouver au-dessus de notre train-train quotidien, d'être ensemble. Des occasions pour les disciples de se retrouver au-dessus du train-train de la vie de tous les jours. Quoi. De prendre un moment privilégié pour passer du temps ensemble. Alors, une fois qu'on a dit ça, ben, comment est-ce qu'on va passer du temps ensemble? Ça correspond à quoi? Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qui se passe? L'important dans les retrouvailles, ben, c'est des gens, des disciples ensemble. Ce n'est pas tellement le programme, ce n'est pas tellement la structure, le système, que ce soit dans un lieu d'église ou pas. Finalement, tout ça, c'est accessoire. C'est l'opportunité, le privilège de se retrouver. Mais un peu plus que ça. En fait, dans ce texte, si on retourne à notre texte en hébreu, Paul, cette petite phrase, il encadre entre deux phrases que je trouve intéressantes, deux exhortations en fait. Hein? Juste avant, un peu comme une introduction, et puis juste après, et là il utilise l'opposition, mais je vais expliquer ça tout de suite. Hein? Regardez celle juste après, donc je suis au verset 25, d'accord ? Ne délaissons pas nos réunions, comme certains en ont pris l'habitude. Alors j'ai dit, ceux qui ont pris l'habitude, c'est pas forcément ceux qui ne viennent pas. Hein? C'est ceux pour qui être ensemble est vide de sens, quoi. C'est devenu une tradition. Ça va ? Donc je pense que beaucoup de gens... Bon, on va parler des catholiques comme ça, ça ne nous concerne pas. Hein? La plupart des catholiques qui vont à la messe. Ben, je ne sais pas si ici on va encore à la messe. Dans les villages, ça se fait peut-être encore. Hein? Samedi soir, on va à la messe. Franchement, il y a peu de retrouvailles, quoi. Hein? Pour des personnes plutôt religieuses, quoi. Hein? On peut, par tradition, être avec, mais ne pas être en retrouvailles. Soit, la petite phrase après, là. Ne délaissons pas nos réunions, comme certains l'ont pris l'habitude. Au contraire, allons tous au culte. Au contraire, écoutons sagement la prédication. Au contraire, chantons des chants de louange. Non, au contraire, quoi ? Qu'est-ce que le texte dit ? Encourageons-nous mutuellement. Et ça d'autant plus que le jour du retour de Christ approche. Donc, il met une urgence, dit Jésus va bientôt revenir. Donc, il y a un truc qu'il faut vraiment, vraiment faire. C'est se retrouver. Pourquoi faire ? Pour s'encourager mutuellement. Alors, c'est facile. Qui encourage qui ? Ah ! Tout le monde encourage tout le monde. Voyez-vous, au cœur des retrouvailles de l'Église, il y a la réciprocité. C'est horizontal. On s'encourage les uns les autres. Hein, vraiment ? Allez, très, très sérieusement, hein ? Vraiment ? Je vais revenir là-dessus. Regardez un petit peu le. Donc, en fait, l'auteur ici, il y a au contraire, hein, il y a, ou dans certaines versions, mais, au milieu du verset 25, là, il y a abandonner les réunions, au contraire, s'encourager. Parce que ceux qui négligent, les retrouvailles, en fait, ils ne s'encouragent pas. Mais les vraies retrouvailles, c'est le temps où on s'encourage horizontalement, réciproquement. Alors j'aimerais bien qu'on réfléchisse un peu à cette idée de réciprocité. Vous comprenez l'idée de réciprocité ? Hein ? Chacun envers chacun. Hein ? Ça va ? C'est comme tous les points placés à l'horizontale et il y a des relations dans tous les sens entre tous les participants. Alors regardez l'exhortation que Paul dit juste avant. Je monte un verset plus haut. Il reprend un peu la même idée, d'ailleurs. Regardez le verset 24. Peut-être que quelqu'un veut lire tout haut le verset 24. Voilà, hein, excité ou encouragé. On comprend mieux encouragé, je crois. Hein. Donc, veillons, mais encore une fois, les uns sur les autres pour nous encourager à la charité ou à l'amour et aux bonnes œuvres, c'est-à-dire à faire l'œuvre de l'Évangile, quoi. Mais encore une fois, qui encourage qui, ou excite qui ? Qui ? Tous envers tous. Ça, c'est la réciprocité. En fait, dans le Nouveau Testament, il y a deux petits mots, encore une fois, je fais mon malin avec le grec, mais il y a deux petits mots grecs, allelon et aoutou, peu importe les mots, mais il y a deux petits mots. Le premier se traduit par les uns les autres. et l'autre par mutuellement. C'est les deux clés de la réciprocité. Allez, allons-y. Les uns les autres, quoi dans le Nouveau Testament ? Ben, bien sûr, hein, le au sommet de tout, aimez-vous les uns les autres, l'amour. Ok, allons-y, quoi d'autre ? Ah, wow ! Exhorter. Donc, ce n'est pas que le pasteur exhorte les fidèles, hein ? Bien que c'est aussi son rôle, mais principalement, c'est exhortez-vous les uns les autres, et pas qu'une fois, autre chose. Pardonnez-vous les uns les autres, oui. Encouragez, ici et dans plein d'endroits. Ah, accueillez-vous les uns les autres, oui. Priez les uns pour les autres. Évidemment, en français, on a toujours d'autres pour, avec, par, mais en grec, c'est juste un mot, hein, oui. D'autres, on pense à d'autres choses. Il y a aimer les uns les autres, hein. Il y a confesser vos péchés les uns aux autres. Hein? En fait, il y a toute une série des uns les autres qui sont de l'ordre de la relation. L'amour, le pardon, l'accueil, d'accord ? L'édification. Aimez-vous, prenez soin les uns des autres, soyez plein d'affection les uns des autres, soyez bons les uns envers les autres, recherchez le bien, veillez les uns sur les autres. Voilà, de la relation. Mais il y a aussi toute une série qui sont de l'ordre du ministère, c'est-à-dire de ce qu'on fait. On a cité l'exhortation, hein, mais il y a plus, il y a l'instruction. Instruisez-vous les uns les autres. Oh, moi je crois que c'est le rôle du pasteur, ça. Oui, mais. C'est pas non, c'est oui, mais. Mais la responsabilité, elle est aussi réciproque. La correction, elle est aussi réciproque. L'encouragement, la libération des péchés, enfin, toute une série de choses. En fait, l'essentiel du ministère que typiquement on attribue à une personne qu'on a mis à part pour, en fait, elle est de la responsabilité de chacun envers chacun. Vraiment ? Je pense que là, il y a vraiment quelque chose où on devrait se remettre en question. Bien souvent, l'Église est devenue tellement structurée, tellement bien organisée, qu'on a presque copié ceux qu'on critique. Hein, par exemple, l'Église catholique, on dit « Ah non, nous, on n'est pas catholique, nous, on est évangélique. Hein. » Mais sur certains aspects, la réciprocité, c'est chacun est responsable. Alors, comment est-ce que ça se passe ? Mais quand on se retrouve, c'est le lieu, les retrouvailles, c'est le lieu réciproque par excellence. Vraiment ? Alors, je ne sais pas comment vous le vivez. Moi, j'ai eu plusieurs expériences d'église, implanteur, pasteur, évangéliste, mais je dois reconnaître, pendant bien des années, j'ai vécu l'église, ce n'était pas vraiment réciproque. Oui, autour de la tasse de café après le culte. Pour ceux qui ont le temps de traîner. Alors, je parle de la Belgique, hein, je ne sais pas du tout vos habitudes. Hein, mais typiquement en Belgique, on fait le culte où on est extrêmement passif, comme vous l'êtes maintenant en m'écoutant. Hein. Ben oui. On réagit, c'est vrai. On réagit. Ça, c'est vrai. Beaucoup d'églises, il n'y a pas de réaction, hein, mon frère. Ça, c'est souvent. Hein. Mais c'est vrai, on réagit. OK. Mais c'est vrai que l'espace d'interaction est extrêmement limité. Voire, dans certains cas, inexistant. Alors même après, pendant le café, c'est très limité, l'opportunité de vraiment s'encourager, s'exhorter, c'est très limité. Peut-être on a dans un groupe de maison un peu plus cette occasion-là, et encore, ça dépend. Mais je pense qu'il y a vraiment des questions à se poser. Est-ce que je vis l'Église comme ça ? Est-ce que l'Église, le cœur de l'Église, c'est ça ? C'est se retrouver pour vivre cette réciprocité. Alors, je ne suis pas là pour accuser ou condamner quoi que ce soit, mais je sais que c'est ça que Dieu veut dans sa parole. Et je sais que beaucoup d'églises se sont installées dans une habitude. Et voyez-vous, quand on passe une période de crise comme celle du Covid, c'est très violent. J'ai vu plusieurs églises qui s'en sortent extrêmement bien. et ce sont des églises qui vivent une vraie réciprocité. Où l'église, c'est moi, c'est toi, c'est nous qui nous encourageons. Et en fait, à travers, bon, chez nous, en Belgique, c'était très sévère, hein, les règles Covid étaient particulièrement dures. Donc, moi, je suis dans une petite communauté, 30-40 adultes, hein, à Jean Blou, entre Bruxelles et Namur. Pendant plus d'un an, 1 an et 3 mois, on n'a pas pu avoir de culte tous ensemble. Donc ça, c'est lourd, hein. Mais on n'a jamais arrêté nos retrouvailles. On ne pouvait pas se retrouver. D'ailleurs, pendant plusieurs mois, je ne pouvais même pas accueillir, moi, mes propres enfants qui étaient donc mariés, etc. Hein, donc, on a eu une période en Belgique, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un contact. Un. Dingue, ça. Donc, mon fils marié, je ne pouvais pas l'avoir, je pouvais avoir lui et sa femme. Un. Donc, c'était difficile, vraiment. Bon, je sais bien que c'était difficile pour vous aussi, hein, pour tout le monde. Je ne fais pas le concours de la difficulté ici. Hein. Mais on n'a pas pu se rassembler en culte, quoi, en réunion organisée, on va dire, pendant plus d'une année. Mais on n'a jamais arrêté de se retrouver. On a chaque fois regardé, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? À un moment, la seule chose possible, c'était 4 personnes dehors, à l'extérieur, 4 personnes dehors, masque et distance. Et c'est une des sœurs de notre communauté, si on organisait des balades, 4 personnes, alors tout le monde, bon, Google, machin, on s'est inscrit et on regroupait par quatre, et allez, promenez là. Et ensemble, ils pouvaient prier, ils pouvaient s'encourager, s'exhorter en marchant. Qu'est-ce qu'on a marché pendant ce Covid, hein? Des centaines, des milliers de kilomètres. Mais on n'a jamais arrêté de se retrouver pour s'encourager, s'exhorter, se stimuler, s'exciter les uns les autres. Jamais! Et donc la communauté, l'Église, n'a jamais cessé de se retrouver, n'a jamais abandonné ou négligé le fait d'être ensemble à la moindre petite... Alors quand c'était 6, c'était 6. La moindre chose, quand c'était possible à la maison, mais dans le jardin, c'était dans le jardin. La moindre occasion d'être ensemble, avec comme première règle, comment est-ce qu'on va pouvoir se retrouver pour s'encourager et se faire du bien, se stimuler, partager les uns avec les autres. Ne prenons pas l'habitude de délaisser nos retrouvailles. J'aimerais vous encourager à réfléchir comment est-ce qu'on peut vivre l'Église comme autant d'opportunités de se retrouver réciproquement pour vivre ces ministères partagés les uns envers les autres. Comment est-ce qu'on peut le faire? Bon, si on pousse la réflexion loin, ça peut secouer, hein, mes amis. Dans notre culture, quand on se retrouve en famille, parce que l'Église c'est ça, hein, c'est la famille. Finalement, quand je dis les retrouvailles, ben, on n'a qu'à penser famille. Famille... qui fonctionne bien, quoi. Hein. Enfin, les familles qui se tirent dans les pattes, donc je parle d'une famille où on se réjouit de se retrouver. Hein. Alors, vous connaissez ça, certainement, la plupart d'entre vous. Quand une famille se réjouit de se retrouver, c'est exactement ça, l'Église. Alors, dans notre culture, on partage une culture francophone, latine. Hein. Alors, quand on se retrouve en famille, qu'est-ce qu'on fait?
Un repas.
Et comment est-ce qu'on est assis quand on se retrouve? Autour de la table, d'accord? Bon, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui, quand ils se retrouvent en famille, me font des rangées comme ça? Non, hein. On est côte à côte. Alors, on est côte à côte, on mange, et puis, allez. Ouais, surtout d'abord, mes amis, les Français, on parle. D'accord? On parle. Il y a un sociologue, je ne dirai pas, non. Je vais dire un missionnaire anglais, je ne vais pas dire qui c'est, a dit... Ah, les Français, ils parlent, mais je dis ça pour les Belges, c'est pareil. Hein. Ils parlent même quand ils n'ont rien à dire. Pas pour dire quelque chose, mais juste pour parler. Bon, voilà. Mais on parle. Et qui parle? Tout le monde parle. C'est réciproque. Alors peut-être que de temps en temps, il y a quelqu'un qui dit, ah, moi j'aimerais bien, et il peut-être partage quelque chose. Alors tout le monde l'écoute. Hein? Ou peut-être il y a l'ancien, le patriarche, qui dit « Bon, maintenant, j'aimerais bien... » et qui a peut-être un petit message. Alors, on l'écoute par respect, et puis on aime bien entendre ce qu'il dit. Hein. Ou des nouvelles qu'on partage. Donc, des fois, on écoute. Mais tout de suite après, oh non, c'est reparti. Ça, c'est une famille qui se retrouve réciproquement. D'accord ? Alors maintenant, on pense à ça.
Il y a aussi tous ces jeunes qui sont avec leur ordinateur et qui sont à table.
Oui, sur leur téléphone surtout. C'est vrai, je ne dis pas que le monde est parfait et que tout se passe bien, n'est-ce pas, hein ? Mais je pense que tout le monde aime passer du temps ensemble, hein, d'une manière ou d'une autre. Ce que je veux mettre en évidence ici, c'est si je pense à ce qui fait des vraies retrouvailles dans notre culture francophone, des retrouvailles réciproques, où on se fait du bien les uns aux autres, et puis je pense à ma manière de vivre l'Église, je me dis, il y a quand même des différences. Hein. En tout cas, ça m'a fait, moi, beaucoup réfléchir sur comment je pourrais, j'espère, que c'est une opportunité pour oser réimaginer comment on est ensemble en Église. Pour pouvoir vivre ce que Dieu nous invite à vivre dans sa parole. Je ne propose pas ici un nouveau truc d'Église complètement alternatif, bizarre. Juste, comment est-ce qu'on pourrait mieux vivre ce que Dieu nous demande de vivre dans sa parole. Alors, je voulais ça. Hein, ceux qui resteront, on va manger ensemble et l'après-midi. Je pourrais donner des exemples un peu plus concrets de ce qu'on a découvert quand on se retrouve, parce que maintenant, on se retrouve comme le culte. Hein. Juste, je peux vous dire qu'on ne fait pas de rangée. Il n'y a pas un prédicateur qui parle et tout le monde qui écoute. On expérimente d'autres choses, d'autres manières d'être ensemble pour vivre ce que Dieu nous demande de vivre dans sa parole. Alors, voilà, je vous invite à y réfléchir, à aller devant le Seigneur, et peut-être les responsables d'église ici, particulièrement, je vous encourage à réfléchir devant le Seigneur. Comment est-ce qu'on peut mieux vivre? On n'est pas obligé de faire l'église comme on l'a toujours fait. Il n'y a aucune obligation. Dans la parole de Dieu, il n'y a rien qui dit comment on doit mettre les bancs ou les chaises. Rien! La hauteur de la chair, le micro, tout ça. Il n'y a rien d'écrit dans la Bible là-dessus. Rien. C'est totalement libre. Mais oui, mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui est indiqué. Qu'on doit. Il n'est pas mis qu'on ne peut pas non plus. Hein. Bien sûr, il n'est pas mis. Surtout pas de banc dans l'église. Non, il n'est rien mis de tout ça. Il est mis ce qu'on est censé y vivre. Et donc la manière dont on arrange les chaises, on arrange les bancs, devrait nous aider à vivre ce qu'on est appelé à vivre. Pas juste parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait. Voilà, je propose qu'on s'incline, qu'on prie. Ah, les questions, moi je suis là après, peut-être c'est mieux après. Enfin, moi je ne veux pas que... C'était pas prévu qu'on ait un temps de questions-réponses. Maintenant, ça ne me dérange pas, les questions ne me dérangent pas du tout. N'hésitez pas à venir me trouver. Hein. Ah, bah, par exemple, on peut imaginer plein de choses. Hein. Il ne faut pas que ce soit l'anarchie non plus. Hein. Parce qu'il faut aussi de l'ordre. Ça, la Bible nous demande de l'ordre. Mais l'ordre, ça ne veut pas dire les chaises l'une derrière l'autre. Hein. L'ordre, ça veut dire autre chose. Mais bon, donc il y a plein de choses qu'on peut redécouvrir. Moi, je voudrais qu'on passe un petit moment dans la prière pour remercier Dieu pour sa parole. Parce que je ne sais pas si on se rend compte, ces retrouvailles-là qu'on peut vivre réciproques, personne d'autre que nous peut vivre ça. Alors les clubs de foot se retrouvent, les clubs de je ne sais pas quoi, de pétanque ou de philatélie ou quoi, se retrouvent aussi. Mais ils ne vivent jamais ce que l'Église peut vivre. Parce qu'il n'y a que Dieu qui fait ça en nous. Et ne passons pas à côté de cette chance-là qu'on a, quoi. Hein? Donc, soyons reconnaissants parce qu'on peut vivre ces retrouvailles-là. Et puis aussi demandons à Dieu qu'il nous donne l'humilité et qu'il nous inspire pour pouvoir les vivre toujours plus pleinement, quoi. D'accord? Alors, on s'incline et on se remet au Seigneur. Seigneur, dans ta parole, tu ne nous as pas donné grand-chose sur comment on devrait exactement arranger la vie d'Église. Mais tu nous invites à vivre une telle communion, de telles retrouvailles réciproques que rien d'autre dans le monde qui nous entoure ne peut vivre. Parce qu'au cœur, il y a toi, notre Dieu. Il y a Jésus, notre Seigneur. Il y a l'Esprit qui s'exprime en nous et à travers nous. Et ça, c'est unique. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-moi d'avoir mis ton esprit en boîte trop souvent, dans la boîte de mes habitudes, de mes traditions, de mes arrangements, de mes programmes, qui sont là pour te plaire, hein, évidemment, mais en même temps, je dois le reconnaître, dans beaucoup de ton Église qui t'ont limité, cloisonné, qui ont restreint la possibilité, la capacité de ton esprit de nous faire vivre des retrouvailles où on s'encourage les uns les autres, où on veille les uns sur les autres, bien plus que ce qu'on peut vivre maintenant. Merci Seigneur, parce que tu nous permets de vivre ça et inspire-nous. Donne-nous l'humilité pour savoir oser nous remettre en question. Donne-nous la sagesse pour ne pas être fou et insensé. Pour que nous puissions ensemble vivre ce à quoi tu nous appelles. L'Église, l'Ecclésia. Une Église qui est résiliente. Une Église qui passe à travers les crises. Qui va passer la prochaine pandémie et qui va en sortir grandie et pas affaiblie. Bâtis ton Église, Seigneur, comme tu l'as promis, et aide-nous à ne pas nous mettre dans le chemin, mais au contraire, fais de nous des collaborateurs de Dieu, comme le dit Paul, pour l'édification de ton Église, Seigneur. Merci. Amen.